Amadou Elimankan et la langue des oiseaux.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Je viens de rencontrer un grand quelqu'un qui habite la langue des oiseaux. Vous voilà en terre poétique. Dans le quotidien de sa poésie, il y a deux choses qui reviennent à tire-d'aile. Sentir l'odeur des tamariniers et prendre de la hauteur dans la langue du héron cendré ou peut-être de l'aigle martial. Amadou Elimankan, il s'agit de lui, fait de sa peau de poète un tambour qui sonne l'heure de l'engagement. Né en 59 dans le sable fin de la Teranga, fils des premiers fondateurs de la Révolution des taureaux d'eau, fondateur de l'Institut culturel panafricain et de recherche de Yéné au Sénégal, Amadou Elimankan marche en quête d'un poème qui libère et qui annonce la renaissance de l'Afrique, créée à son Wallo natal et son Fouta. Lire de façon très en sol majeur son parfum de tamarinier paru aux éditions Lettres de Renaissance. Je vous souhaite le bonjour, Amadou Elimankan.
Bonjour Yasmine et bonjour à toute ton équipe et un grand merci pour ce moment.
Je sais que vous avez un rituel poétique, ce qui est normal hein, d'ailleurs, puisque la radio est un lieu de parole aussi. Un rituel qui consiste, je vous cite, à déposer votre prologue. Je vous laisse faire.
Tout à fait. Écoutez Yasmine, je chemine toujours vers une ouverture absolue au monde portant un certain nombre de valeurs. Je sais, Yasmine, que j'habite la terre sacrée, la terre dense d'amour où je capte des poèmes qui font jaillir l'orage, la foudre et la lumière pour ouvrir et éclairer la ligne de l'horizon. Pourquoi le ciel est-il si rouge ? Pourquoi le morcellement de nos terres natales, des terres africaines? À présent, je vais à la source infinie et je reviens le regard chargé de souffle vital. Et je réclame seulement le silence. Ma colère silex transperce la nuit, mon espérance est ma source. Et je dis, ne crie pas, ne gémis pas, ne mendie pas, ne trahis pas, n'attends pas de remerciements. À chaque génération, son tam-tam de lumière, battez-le fort pour danser joliment selon le rythme de son temps. Et comment voulez-vous que je me soumette ?
Merci de suivre le fil intuitif hein, de votre plume corporelle, de votre plume poétique, Amadou Elimankan. Je suis assez impressionnée, un peu inquiète aussi, parce qu'on est dans des contraintes à la radio. Mais on va cheminer ensemble, à notre tour de déposer en sol majeur un tout petit rituel musical, celui-là, avec Mansour Seck, que vous avez programmé, avec un titre Almani Bokoum. Alors, dans quelle langue il chante ? Et rapidement, de quoi il s'agit dans ce morceau ?
Écoutez, il chante dans la langue poulard, la langue peul. Et là, il chante, il fait les éloges d'un ami qui s'appelle Almami Bokoum. C'est un morceau qui m'a toujours accompagné dans mes moments de Paris by Night.
Et de blues by
Night. Et de blues, des moments de mélancolie et que j'écoutais pratiquement toutes les minutes, toutes les heures.
Almami, Almami. Almami nena
bolo fo de cinco yoda
alandri lay rabila ramina ala
ondungo ala gaño
kele ala beli beba ni nene bolo fada cinco yoda alma minena
nemi bu
la guitare de Mansour Seck, un petit peu de terre sous nos pieds, celle de Dagana, où vous êtes né, Amadou Illimane Kane, entre le Fouta et le Wallo, près du fleuve Sénégal.
Est-ce comme symphonie de l'enfance?
Cher poète, né près d'un fleuve, comment est-ce que vous décririez votre symphonie de l'enfance à vous? Qu'est-ce que vous avez vu, entendu, touché, senti quand vous étiez petit?
Mon royaume d'enfance, c'est le beau. Je me souviendrai toujours de ce marigot, de mon Dagana natal, qu'on appelait le Mbempan. Je me souviendrai toujours de ces hérons volants de mon Dagana natal. Je me souviendrai toujours de ces tamariniers géants de mon Dagana natal sur le fleuve Sénégal. Et c'est là où j'ai capté tout ce que aujourd'hui je nomme justice cognitive, en disant qu'il faut convoquer toutes les trajectoires pour porter le beau.
Quand vous écrivez le crocodile sacré jaune avec le nénuphar fleuri, ça fait partie d'un de vos poèmes aussi. Qu'est-ce qui vous revient? Quelle vision de cette enfance vous revient?
Je me rappelle tout simplement de cette période d'initiation où on est circoncis, où on nous raconte un certain nombre d'épopées, où on est initié. Et comme je suis un homme qui a été initié et qui porte un certain nombre de valeurs, et effectivement, je me souviens de ces valeurs de crocodile.
C'est quoi les valeurs du crocodile?
C'est tout simplement ce que je vais essayer de vous traduire, vous disant que avec le limon du Nil, je voudrais de nouveau déplier le temps comme une mélodie, rythmé par mon histoire, l'histoire, que je ne suis point parole du Nord, ni parole du Sud, qui assène des salives ou belle la honte. Je sais que j'appartiens au continent de la pleine lune, celui des épopées ancestrales, le rêve merveilleux à nos terres, les terres pleines de sagesse. Et comment voulez-vous que je me taise?
Oui. Est-ce que c'est le crocodile qui vous a enseigné ça dans les contes?
Non seulement dans les contes, mais également dans l'initiation réelle.
On ne va pas rentrer dans le bois sacré, hein, parce que justement, il n'y a que les initiés qui peuvent y pénétrer, donc je me garderai bien.
Mais je vais vous faire goûter, par contre, je vous ferai goûter quelques délices de ce bois sacré.
Ah là là, que faisait votre père, Abdou Boly Kane?
Écoutez,
cher
Abdoul Boly Kane est un ancien commandant de l'air. Il était aviateur dans l'armée française. Un grand monsieur qui m'a légué ses paroles de la révolution des taureaux d'eau.
On va y revenir à cette révolution. Donc vous aviez un papa aviateur, l'un des premiers dans l'Afrique francophone.
Absolument. Un monsieur ouvert, un érudit, et
qui était à la fois initié et qui portait l'école coranique, comme aussi qui portait l'école française.
Double culture, donc.
Absolument, tout à fait.
Dans la famille.
Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis issu d'une famille de lettrés depuis nos ancêtres les plus lointains. On habite les lettres.
Tout petit, dans la cour commune, vous étiez déjà un habitant des lettres.
Des lettres. Les premières lettres que j'ai portées m'ont été initiées par une femme, poétesse Khady Diop, qui est de Dagana et qui est d'ailleurs une des cousines du fondateur de la librairie Présence africaine, Cheikh Anta Diop.
On y est
et
déjà.
Qui était une grande poétesse et qui habitait les lettres coraniques. Les premières lettres arabes que j'ai intériorisées à l'âge de 4 ans, c'est grâce à cette dame qui nous enseignait le Coran et qui nous enseignait aussi la poésie. Parce qu'elle écrivait aussi en Wolof. Et pour cette dame, d'ailleurs, j'ai dit « La nuit, j'entends ta beauté dans le concert des mots. » Et à l'aube, je sens ta vitalité immortelle. Mère Khady, tu es dans mes rêves. Mère Khady, tu es dans mon esprit.
Est-ce que je peux, Amadou Eliman Khan, vous emmener vers l'année 1966? Cette année-là, vous avez 7 ans et le Sénégal, sous la houlette du président Senghor et de Présence africaine, donc, organise le fameux Festival mondial des arnaques, très important pour vous apparemment. Vous allez nous dire quel souvenir le petit Amadou en garde après avoir écouté l'une des personnalités qui était invitée durant ce festival. Je parle de Joséphine Baker, à qui le journaliste de l'époque demande « Mademoiselle Baker, est-ce que vous pensez que l'art nègre a encore de l'influence sur l'art en général ?»
Ça a été toujours, puisque ça, l'art nègre, c'est... les Africains, n'est-ce pas, existent depuis très longtemps. Et bien sûr, disons, vous savez, moi, je ne parle de l'art nègre. C'est naturellement, c'est pas une sorte de thème qui me touche de plus, puisque je suis africaine d'origine. Mais moi, c'est l'art en général. Car l'art en général, c'est la meilleure façon de se comprendre. Et voyez-vous, l'art nègre fait ce qu'il doit faire, et l'art en général la même chose, et le résultat, la fraternité.
Autrement dit, vous êtes un peu d'accord avec Picasso quand il a répondu, quand on l'interrogeait sur l'art nègre, il a répondu « l'art nègre connaît pas ».
Il a raison, il y a l'art, et ça suffit.
Ne me dis pas que tu m'adores, embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est incoloré, mais un baiser, c'est éloquent.
Le poète que vous êtes doit frémir des oreilles en entendant les propos de Joséphine Baker, qui était proche, je le rappelle, du mouvement de la Renaissance nègre. Mais ça, c'était quand même l'affaire des artistes et des intellectuels de l'époque. À propos de ce festival, de quoi se souvient le petit garçon que vous étiez? Vous sentiez, enfin évidemment vous étiez trop petit, mais avec le recul, rétrospectivement, une fusion possible entre cet univers francophone dans lequel vous aviez déjà un pied et cette grande culture de l'art nègre, comme on l'appelait.
Ah oui, tout à fait, on le vivait de manière forte, de manière belle, parce que tout simplement, on en parlait partout dans les écoles, on récitait des poèmes de David Diop, des poèmes de Birago Diop, donc je l'ai vécu, bien sûr, je l'ai vécu de manière forte.
Puisqu'on est un pied dans les grandes références, vous êtes né dans une famille, je le disais, de bâtisseurs, avec des ancêtres fondateurs, fondateur de la révolution des taureaux d'eau. Donc on va essayer de s'asseoir en cercle un peu autour de vous, comme au bon vieux temps de la radio qui remplaçait la cheminée, pour que vous nous racontiez un peu les actions de vos ancêtres, à savoir Abdelkader Khan et Iliman Boubacar Khan.
Écoutez,
c'est-à-dire vos arrière-arrière-grands-pères.
Absolument, ce sont mes arrière-arrière-grands-pères qui ont été les précurseurs de ce qu'on appelle la révolution des taureaux d'eau. C'est en 1776, donc une bonne décennie avant la révolution française. Et le régime qui était là avant la révolution, c'était une monarchie des Denis Yankobé qui était fortement liée à la traite négrière, à l'esclavage. Et dans ma région, là où je suis né, au Fouta, ce régime pratiquait l'esclavage Et ses arrière-grands-parents, avec un autre monsieur, Souleyman Ball, qui se sont battus avec, bien sûr, le peuple, qui ont porté le peuple, pour renverser ce régime des dénuants Kobe et poser une des premières républiques du monde. Et au Fouta, où en fait l'esclavage était banni, où toutes les situations d'injustice, l'exploitation de l'homme par l'homme qui était à l'époque organisée par les dénuants Kobe via les morts de l'époque étaient complètement bannies. C'était la belle fraternité qu'ils ont posée, les droits humains. Et cet événement a beaucoup imprégné mon imaginaire.
Café Tierno Souleyman Ball, dont vous parliez, donc, était surnommé le briseur du Moudou Ormo.
Du Moudou Ormo, c'était le tribut que les Foutankés devaient donner aux morts berbères qui, à l'époque, pratiquaient l'esclavage en terre africaine. Et Souleyman Ball a dit niet aux uns et aux autres. Et
à verser cet impôt, c'est une dîme.
Absolument, oui. C'est une dîme, c'était un impôt que Souleyman Ball a brisé avec Abdelkader Khan et Eliman Boubacar Khan.
Alors il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette révolution apparemment émancipatrice, je ne sais pas pourquoi je dis apparemment d'ailleurs, c'est ce fameux principe dont vous parliez tout à l'heure de justice cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire ?
De justice cognitive parce qu'à cette époque, ces hommes ont proposé à ce que toutes les trajectoires soit convoqué, que l'être humain soit au centre, que la dignité humaine soit posée et que tout ce qui était corruption, tout ce qui était malgouvernance, tout ce qui était également discrimination était complètement dans le caniveau. Ces hommes ne portaient que l'être humain, cette belle valeur universelle qui aujourd'hui nous fait rêver en plein 21e siècle.
Oui, oui. Donc hier nous enseigne aujourd'hui, mais vous, personnellement, de façon charnelle, vous vous sentez l'héritier de cette révolution ?
Oui, je me sens héritier de cette révolution parce que tout simplement dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où la pensée devient de plus en plus unique, où aujourd'hui nous sommes confrontés à une certaine suprématie occidentale, où les autres trajectoires ne sont pas convoquées. Ce qui est un paradoxe d'ailleurs de cette mondialisation. Je pense qu'on devrait aujourd'hui proposer l'ensemble des trajectoires, comme là, quand je vous parle de cette révolution qui eut lieu en 1776 et personne n'en parle.
Sauf vous. Qui était Sama Yassine que vous chantez dans un de vos poèmes ?
Sama Yassine, c'est tout un rêve de l'amour. L'amour que nous portons. Et Sama Yassine, Yassine, viens danser amplement avec moi sur notre propre rythme. Et nos pas de danse enlèveront les montagnes de la détresse et nous nous délivrerons de la pensée carcérale. Plus jamais de murs, plus jamais de propriété, plus jamais de caste sur le long de nos beaux rivages.
Voilà, ça c'est un poème donc où Sama Yassine, dont je ne sais toujours pas la traduction, comment est-ce qu'on le traduirait, Amadou Eliman Khan ?
Sama Yassine, c'est mon amour. C'est une femme.
Oui. Mais comme on vient de l'entendre, là, si je relève quelques-uns de vos vers, vous dites « plus jamais de murs, plus jamais de propriété, plus jamais de caste ». Je pense que le citoyen que vous êtes n'est ni de droite ni de gauche, ce n'est pas vraiment votre enjeu à vous. Mais est-ce qu'on peut dire que vous avez, entre guillemets, le cœur communiste ?
Le cœur communiste, dans la mesure où j'habite certaines valeurs poulard, telles que ce qu'on appelle le poulagou. Et dans le poulagou, on dit qu'un individu est individu à cause des autres individus. Je suis parce que tu es. Je suis grâce à ce que nous sommes. Effectivement, j'ai été éduqué dans des valeurs communautaires, dans une dynamique de partage.
Oba, oba, stop it.
C'était dans une vallée de Tamarinier et nous voilà transplantés dans un quartier populaire de Kingston en Jamaïque avec cette chanson de Bob Marley que je n'attendais pas vraiment dans votre ensol majeur, Amadou et Liman Khan. Vous voyez les préjugés que j'ai, vous êtes en costard cravate, je me suis dit non, il n'écoute pas Bob Marley. Et si, pourquoi Bob Marley ?
Bob Marley est une partie de ce que je suis. Bob Marley est issu de ce peuple de descendance africaine qui a été déporté de l'autre côté. Et vous savez, comme disait l'autre penseur, cher Anta Diop, l'Afrique, c'est comme cet homme qui a perdu une de ses jambes et une de ses jambes se trouve au niveau de ses diasporas. Et je suis allé chercher cette jambe.
Dans quelle langue dites-vous l'amour?
Le wolof et le poular. Quand on me dit « Est-ce que vous avez une langue maternelle ?» Moi, j'ai dit « J'ai deux langues maternelles parce que je suis né dans un environnement où ces deux langues étaient là. »
Donc l'amour en wolof et en poular, alors que vous écrivez en français. Mais il y a en tout cas deux mots que vous ne pouvez dire qu'en wolof. C'est le mot « transmission » et « liberté ».
Ah oui. Ces deux mots, quand je les pense en wolof, je suis transporté dans des ciels de rêve, dans des ciels de bâtisseurs.
Comment ça se dit, transmission?
Transmission djallalé. C'est tellement d'une puissance djallalé. C'est-à-dire, c'est un mouvement, c'est puissant, c'est magique. Et j'ai du mal, quand je dis ça en français, transmission, pour moi, c'est tellement court, djallalé.
Il y a l'invitation au geste.
Absolument. Là, c'est-à-dire, je sens même la question mémoire, la question...
Il y a tout votre corps.
Il y a des repères qui sont là tout de suite, qui se posent en moi, en fait.
Tout votre corps qui vibre.
Hein. Absolument.
Et alors, le mot liberté?
Mom sebop. C'est aussi tellement fort. Mom sebop, il y a la question d'appropriation. D'apprendre à apprendre, c'est-à-dire qui dépasse cette liberté mécanique, mais qui est aussi dans une dynamique de faire relayer, de faire partager cette liberté.
Et quand vous le dites en français, alors ?
Liberté, pour moi, c'est très court. Il n'y a pas cette dimension qu'un individu est individu à cause des autres. Et là, quand je dis « mom sebop », il y a également les autres. Je suis parce que tu es.
Même si elle est toute petite, l'oreille peut entendre. C'est ce que vous mettez en exergue de votre recueil Parfums de Tamarinier, Amadou Liman Khan. Ce qui explique peut-être aussi, en partie, hein, votre procédé d'écriture. J'ai cru comprendre que vous créez et que vous écrivez toujours à haute voix.
Tout à fait. Pour moi, la poésie, c'est la sonorité et l'oralité. Et c'est ainsi que je compose, je construis, déconstruis et recompose ma poésie au moins de la parole.
À chaque fois que vous dites le poème, vous le réécrivez.
Absolument. Et c'est ce qui d'ailleurs en fait me différencie de ce qu'on appelait à l'époque du Moyen-Âge le jongleur qui récite le poème. Moi, je ne récite pas. Je dis mes poèmes, je suis acteur, c'est-à-dire je déconstruis, je recompose, et dans le dire et dans l'espace.
Mmh. Alors toutes nos excuses en sol majeur, parce que nous on vous a mis dans une contrainte, celle de lire, comme un perroquet, comme un jongleur, de répéter ce poème que vous avez écrit noir sur blanc et vous vous êtes prêté au jeu tout à l'heure, mais du coup c'est violent pour vous.
Tout à fait, parce que je n'aime pas réciter, j'aime être acteur. Parce que la récitation me renvoie un peu à ce que j'appelle le mimétisme. La récitation, je ne sais pas, et comme j'aime être libre, j'aime me posséder.
Mais et... comment on fait alors? Parce qu'on peut essayer ensemble, la radio est peut-être idéale, c'est un piédestal aussi pour la langue d'un poète. Quand un poème commence par « Dans le champ des tamariniers fleuris », vous pourriez continuer à lire ce poème, mais si vous prenez la méthode d'Amadou Eliman Kahn, qu'est-ce qui se passe avec ce poème?
Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, je partirai vous disant qu'au murmure des feuilles des tamariniers, nos regards se réveillent. Et je veux que l'on me dise pourquoi? Pourquoi blesser cette fleur de tamarinier qui n'est pas encore éclose? Je sais que je songe. Je songe comme un ciel ourlé d'arc-en-ciel, que cette parole sera une parole de lune et une parole de mangrove.
Donc là, vous avez improvisé sur ce poème, sur
absolument,
ce début de poème.
J'ai réécrit ce poème et j'ai fait ce que certains hommes de lettres appellent de l'intertextualité. Et moi, je dis tout simplement, je construis, je déconstruis, je recompose. Et c'est ce qui fait que je suis souvent dans une dynamique de rumination. Je rumine énormément. et je me souviens que j'avais du mal avec un de mes enseignants qui, à l'époque, me prenait pour un idiot et pourtant Dieu seul sait que paraît-il, même pas paraît-il, je fais un quotient de 180.
Vous êtes un fou. Mais ça, la poésie accueille les fous, justement. Mais vous avez une dimension un peu borgésienne, c'est-à-dire que pour vous, le livre, le poème, la langue est quelque chose d'infiniment vivant qu'on ne peut pas saisir et fixer.
Oui, la langue, pour moi, elle est mouvement. Je travaille beaucoup la langue et j'habite, moi, cette langue des oiseaux. Les sons, les images, les anaphores, les allitérations, les répétitions. Et ça, j'adore. Ça me fait vibrer. Et j'adore prendre un mot et remonter dans le temps et essayer de voir que combien ce mot est mouvement, combien ce mot se déplace d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, d'une période à une autre. Il n'y a aucune signification éternelle.
Vous vous êtes fait une promesse de poète, hein, je crois, Amadou Eliman Kahn, celle de ne pas vous taire sur des sujets douloureux, liés à l'histoire, liés parfois à l'actualité. Quand vous dites, par exemple, « J'ai vu les enfants, nos enfants mourir », à quoi faites-vous allusion ?
Écoutez, je fais allusion à ces situations de guerre, je fais allusion à ces enfants qui meurent sur les côtes espagnoles parce que tout simplement, on a des hommes et des femmes qui n'assument pas. On a des chefs d'État en Afrique, malheureusement, qui sont complètement dans ces valeurs de corruption, d'impunité et de népotisme.
Chef de Dialenke, écoutez-moi.
Écoutez la grande royale.
Il y a 100 ans, les Blancs sont arrivés. Et je connais cela, moi, la grande royale. Est-ce exact, Griot?
C'est exact. Les Dialenke étaient braves, mais les Blancs furent vainqueurs.
Puis, les Blancs sont repartis. Car les Dialenke étaient trop fiers. Mais en repartant, ils ont dit au chef, et c'était mon père, qu'ils étaient désormais les maîtres. Mais mon père a continué à gouverner les Dialenke comme par le passé. Et le peuple Dialenke a survécu, tel que depuis le commencement du monde, un autre peuple survivait. Mais moi, grande royale que l'on surnomme l'Éternel et le Maître et les plus anciens d'entre vous qui dominions le temps, nous avons compris qu'à chaque fois, ils emportaient un peu de nous-mêmes et que notre peuple peu à peu s'affaiblissait, comme les taureaux que les sangsues finissent par abattre et qui se noient dans le marigot. Mais toujours, les Blancs revenaient ainsi.
Alors, Vous êtes forcément un lecteur de l'aventure ambiguë de notre cher Shiramidou Khan. Je parle à vous qui avez commis un roman intitulé « L'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë ». Malheureusement, je n'ai pas pu lire ce roman. Mais j'ai une question quand même. Ça m'inspire ça. Votre poésie à vous, est-ce qu'elle est ambiguë, vous diriez, Amadou Iliman Khan ? Est-ce qu'elle est émotion ou est-ce qu'elle est raison ? Je pose la question en souriant, bien sûr.
Vous savez, les données changent. En passant, j'ai dit d'ailleurs un grand bonjour à ce grand monsieur qui est un oncle et qui a effectivement apporté son anneau dans cette dynamique d'appropriation de notre patrimoine culturel. Bon, cependant, les époques ont changé. Moi, dans mon époque, en tout cas au moment où je vous parle, je ne suis plus dans ce qu'on appelle les chocs culturels. Moi, il y a des choix qui sont là, tels que dans L'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë, il y a un personnage, Boubacar, qui fait son choix d'aller à l'école tout simplement pour s'armer de science jusqu'aux dents et qui n'a aucun complexe, qui n'a aucune attitude de supériorité ou d'infériorité, qui porte de belles valeurs.
Donc on n'est plus dans le choc culturel, mais dans l'harmonie culturelle ?
On est dans l'appropriation. Là, on est dans l'appropriation et il y a l'autre, Samba Diallo. Moi, je le fais revivre dans mon roman où je fais Samba Diallo, ces hommes qui sont là, qui détournent les deniers publics. Et pour moi, c'est
la question. Vous parlez de qui exactement ? Qui a détourné les deniers publics ? De qui vous parlez à ce moment-là ?
Là, je parle de ces chefs d'État, de ces gouvernants.
Des indépendances.
Après les indépendances. Et même, peut-être même avant également, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui sont là, qui effectivement sont contre le peuple, sont contre les intérêts de leurs citoyens. Et pour moi, ça, c'est des questions aussi de choix. Et au niveau discours, j'aime pas les discours binaires. J'aime pas les discours qui jaune-noir, c'est-à-dire tout n'est pas noir comme tout n'est pas blanc. Et effectivement, même si je retiens, il y a ce qu'on appelle les causalités historiques, hein, d'accord ? Ça, je ne les nie pas, mais je dis très souvent, l'être humain est très multiple.
Alors, je ne sais pas quels ont été vos professeurs à vous. Enfin, on en a un peu une petite idée quand même. Quel poète aussi, à quel poète vous avez pu vous référer ? Mais je pense que peut-être pour un sol majeur, c'est l'heure de faire résonner la voix de Césaire qui évoque au micro de Zane Palsy sa rencontre avec son ami Senghor.
L'Antillais appartient, si l'on veut, à une Afrique, ouais, une Afrique démembrée, lacérée, déchirée. Il y a chez les Antillais une angoisse qui n'est pas une angoisse africaine. Senghor, c'est l'Afrique en elle-même telle que l'éternité la pense. C'est l'Afrique éternelle, avec sa noblesse, avec sa dignité, avec son histoire. L'Afrique avec son humanité, sa philosophie, sa sagesse. Et je pourrais presque dire que m'apportant cela, il m'apportait aussi la clé de moi-même. Senghor n'a jamais douté, il n'a jamais été déchiré.
Alors, comment vous, Amadou Iliman Khan, poète africain, vous croisez le fer avec Césaire l'Antillais ?
Écoutez, moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré Césaire fin des années 80 dans le cadre de ce mouvement, le mouvement international négro-africain Cheikhanta Diop, où en fait, j'étais en Martinique représentant ce qu'on appelait à l'époque l'école africaine, l'autoréférentialité. Et j'ai gardé ce souvenir d'un homme puissant, un regard anthologique. Et au-delà de cette rencontre, moi, j'ai toujours communié avec Césaire, avec sa poésie, effectivement, qui est une partie de moi. Quand Césaire écrit, ça fait écho chez moi.
Vous écrivez « Le tamarinier couve le poème volcan ». On vous sent en fraternité poétique hein, quand vous dites le poème volcan. Mais comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase ?« Le tamarinier couve le poème volcan ».
Écoutez, c'est tout simplement « Je voudrais de nouveau, pareil à un volcan, langue de feu ». Et avec le limon du Nil, Je voudrais de nouveau déplier le temps. C'est en ces termes-là que je lis ce tamarinier qui couvre, ce tamarinier qui porte toute mon histoire, mes blessures, mes beautés, tout, tout en moi.
Est-ce que le tamarinier demande pardon au poème Volcan ?
Le tamarinier est en communion avec le poème Volcan.
Parce que vous pleurez des milliers de cadavres à travers les côtes de l'océan, je vous cite.
Ça c'est à un autre niveau. Moi j'ai dit en tout cas, nos gouvernants doivent se dire lorsqu'ils détournent un seul centime, qu'il y a une femme qui meurt devant une maternité. Il y a un garçon qui meurt sur les côtes espagnoles, sur les côtes italiennes. Moi, j'ai dit à ces gouvernants, à ces hommes, ces femmes, de méditer sur ce propos et d'essayer de se ressaisir le plus rapidement possible et d'avoir une petite compassion pour leur peuple. Et cette compassion fait défaut au niveau de l'élite africaine de manière générale.
Vous voyez, moi je barbote dans mille et une interprétations quand je vous lis, parce que vous me parlez de peut-être des politiques migratoires contemporaines. Et moi, j'avais l'impression que vous faisiez référence avec cette phrase « Vous pleurez des milliers de cadavres à travers les côtes de l'océan » à la traite.
Oui, à la question également, c'est-à-dire toutes ces questions sont liées. On ne peut pas les saucissonner. Effectivement, on a Césaire eu à pleurer. Ces hommes et ces femmes qui ont connu la traite et qui ont été violés, humiliés,
déportés,
vendus comme des meubles, etc. Et aujourd'hui également, nous vivons ça sous une autre forme. Ces hommes et ces femmes qui sont là, qui meurent dans les bateaux, dans les petites pirogues, parce que tout simplement, là où ils sont, ils n'ont plus cette capacité d'initiative.
Pedreo et nos puces.
Quelle heure est-il dans votre vie ?
Quelle heure est-il dans
votre vie ?
Dans ma vie, je sais tout simplement que je n'ai ni l'élan, ni le procédé de diversion d'appartenir à une chapelle génocidaire pour étaler un règne de coups de hache et de coups de kalachnikov. J'appartiens au continent de la pleine lune et pourquoi voulez-vous m'enlever les seins de mon baobab ? Laissez-moi les têter pour embrasser tous les vents de l'amour et tous les vents de liberté. Voilà l'heure qui m'emporte. Voilà l'heure qui est là avec nous.
Je ne regrette pas de vous avoir posé la question. Alors, vous avez fait des études de sociologie, d'anthropologie, de littérature, de pédagogie. Tout ça, je crois, entre Dakar et Paris. Est-ce que, ça c'est la question en sol majeur, vous savez, on parle de ce lien au sol, à la terre natale, d'accueil et d'adoption. Est-ce que, pour vous, faire la navette comme ça entre le Sénégal et la France, c'est juste une question de logistique ou il y a quelque chose de plus intime ? C'est un besoin pour vous ?
Écoutez, moi, j'ai fait surtout toutes mes études ici en France, en fait. Hein. Je suis arrivé ici au sortir de l'adolescence. Hein. J'ai vécu presque toute mon adolescence ici. Et comme vous le savez, bon, là, aujourd'hui, la bonne soixantaine. Donc, clair de mon temps, j'ai vécu en région parisienne, vécu professionnel également, enseigné.
Donc vous êtes chez vous ici ?
En partie. Mm-hmm. En partie, je sens les odeurs de Paris. Je sens aussi, j'ai un amour pour Paris. C'est-à-dire cet amour de diversité. Quand j'ai envie de manger japonais, je vais manger japonais. Quand j'ai envie de manger algérien, je vais manger algérien. J'ai envie de manger sénégalais, je vais manger sénégalais. Ça, c'est très parisien. C'est... oui. Et j'adore ça, ce va-et-vient, en fait, ce Paris cosmopolite.
Donc, vous en avez besoin, de cette navette?
Ah oui, j'en ai absolument besoin, oui. Moi, j'ai besoin des couleurs multiples. Je m'attache aux couleurs multiples de la cosmogonie. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que quand je parle de ma culture, je parle de ma culture comme un outil de compréhension de l'humain. Parce que je vois le va-et-vient entre les uns et les autres. Et j'adore ce va-et-vient. J'adore ces trajectoires plurielles.
Qui vous ramène quand même toujours au tamarinier. Pourquoi cette importance du tamarinier? C'est juste l'enfance? Le socle de l'enfance?
Déjà, le tamarinier en tant qu'arbre, pour moi, c'est magnifique. Et surtout lorsqu'il donne des fruits, c'est son odeur. Et cette odeur me transporte, cette odeur me fait rêver. Ce qui fait que, bon, j'ai capté ce regard du tamarinier.
Votre maison, elle est où alors finalement?
Oh, ma maison, je suis nomade. Vous savez, les Peuls, hein, à l'origine, c'était des nomades. Ma maison, effectivement, c'est la terre africaine. Mais j'ai dit tout simplement, ne blâmez pas le nomade. Il promène sa maison arc-en-ciel, où la beauté ruisselle, pour que disparaisse la peine. Et que les enfants, nos enfants, forment une ronde plurielle. Ne blâmez pas le nomade. Il libère l'oiseau, l'arbre chantant comme une mélodie remplie d'espoir.
Merci infiniment, Amadou Eliman Kane. Ce poème que vous venez nous offrir comme ça au Débeauté pour en sonne majeure, il pourrait rejoindre ce magnifique recueil intitulé « Parfum de tamarinier » paru aux éditions Lettres de Renaissance, que vous dirigez.
Oui, je suis le directeur des publications. Et il y a Michel Cellier qui est la directrice littéraire.
Votre présence qui sera ponctuée pour refermer les volets de cet en sol majeur par une certaine Mahawa Kouyaté magnifique avec un morceau somptueux intitulé Bandia, que vous vénérez pour quelle raison?
Parce que tout simplement, c'est la voix, la mélodie. Je ne parle pas cette langue, mais cette langue me parle liée à la voix, la beauté de cette voix, qui est une beauté magique.
C'est quelle langue?
C'est en malinké, en bambara.
Merci Amadou. En sol majeur qui puise dans le fleuve des Tamariniers, émission à réécouter en podcast sur votre application préférée et sur nos réseaux sociaux, à retrouver bien sûr, en direct, autrement chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 16h à Paris hein, pour vos professeurs. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on remet le couvert demain avec Mahmoud Nassimi.
Tous les cinémas du monde.
Elisabeth Lequer.